Chapitre 2 Spectrophélès. Ses couteaux, elle les tenait dans sa main bandée, et c'était le jour même, après-midi. Stéphane absent jusqu'au soir, Rosine et Regina avaient projeté de pénétrer dans la chambre des mains. Pour ce faire, la servante aux yeux noirs, sous prétexte d'avoir égaré son trousseau de clés, s'était procurée chez un galant serrurier quelques douzaines de rossignols enfilés sur un cercle de fil de fer. À tout prendre, il s'agissait seulement de crocheter la porte et d'avoir trois cassettes aperçues par le trou de la serrure et qu'il était raisonnable de supposer fermées. Elle l'était effectivement, mais ne contenait la première que de la pharmacie, la deuxième que des ustensiles de massage, la troisième que les pièces interchangeables des machines électriques. Rien de suspect au premier abord. De la confusion, beaucoup de fioles et de petits pots sur un rayon, les électriseurs abritaient dans des boîtes vernies leurs mécanismes de cuivre, d'ébonite et de gutta-percha. Au-dessus de la table, une bibliothèque étagère contenait quelque 200 volumes de toute taille mal rangés. La machine à écrire occupait son support. Le clavier silencieux croisait ses tréteaux. Et sur la table, un grand désordre emmêlait une foule d'objets disparates et quelconques, comme on en voit sur les bureaux des hommes sans soin. Les couteaux furent dénichés derrière les livres, insérés entre le mur et la base de l'étagère, qu'on avait échancrée à cet effet. En somme, bien cachés. Il y en avait 5. Tous pareils. C'étaient de ces couteaux à cran d'arrêt que les Apaches nomment surin ou lingue, comme chacun le sait. En vérité, il y avait de quoi frémir, tant ces surins semblaient faire partie d'un musée du crime et paraissaient décrochés d'une panoplie toute garnie d'instruments homicides, lames, casse-têtes, coups de poing, revolvers, sans compter les choses banales telles que bouteilles, pieds de chaise, chenets et autres masses improvisées, débonnaires par destination, et qui sont plus horribles encore que pistolets d'assassins et poignards d'égorgeurs lorsque le sang d'un meurtre est sur eux. Pourtant, la similitude de ces 5 couteaux donnait à penser. Par là se manifestait clairement leur nature. C'étaient des signes et rien d'autre. Ils se ressemblaient comme les cartes de visite d'une même personne. On les avait achetés en même temps. Le même marchand coutelier les avait extraits du même paquet dont la ficelle maintenait extérieurement l'un d'eux pris pour modèle. Seulement l'X était postérieur à l'achat. De petites imperfections révélaient que cette lettre de métal blanc avait été incrustée dans la corne du manche par un ouvrier dont ce n'était point la spécialité. X, la lettre qui est un point d'interrogation, le caractère sphinx, la croix de Saint-André qui barre le passage. La traduction de la lettre X par ces mots « les X », abrégés de « les bandits pénétrés de rayon X », ne tentait plus Rosine. Pourquoi ? Elle n'aurait su le dire. Sans doute, cette traduction comportait-elle trop de concessions romanesques, une reconnaissance trop absolue du principe merveilleux. La science ne procède pas au moyen de bons. Elle passe d'une découverte à l'autre par la pente douce d'un escalier facile. De la radiographie par les rayons X à l'existence de créatures imbues de rayons X, il y avait un saut par-dessus un abîme. Et Rosine, à tête reposée, ne pouvait plus croire que ce salaud saut fût possible. Non, X, cela voulait dire autre chose. X, pourquoi cette marque de mystère? Ces couteaux, ces signes s'adressaient à Stéphane. Or, il ne pouvait l'affoler congrûment que si leur provenance était connue de lui. Donc, il savait que la personnalité quelle personnalité se cachait sous cet X. Et cet X, alors, ne prétendait point à son sens habituel. Cet X ne voulait pas représenter l'anonymat, l'ombre, l'invisible, l'inconnu. Cet X n'était pas un masque alphabétique. Autant le dire, cet X n'était pas un X. Cependant, X désignait à coup sûr la barre infrarouge. À coup sûr, non, mais apparemment, et il fallait le démontrer. La bande infrarouge, une bande alors qui faisait usage de rayons X, oh, peut-être. Mais ne savait-elle rien de plus sur cette bande, Rosine ? Ne connaissait-elle pas des indications plus certaines que celles d'agissements énigmatiques et troubles ? Des indications sûres ? Le billet du concert pourpre, elle le relut dans sa mémoire. Les dix ordonnent. Ils veulent du sang. Obéissez, n'oubliez pas la bande infrarouge. Ils étaient dix et leur paragraphe était un X. Elle avait compris. X n'est-il pas le chiffre romain qui représente le nombre dix? Le problème aboutissait. La valeur de l'inconnu était dégagée. X égale 10. Oh, c'était, dirait-on, peu de choses. En pratique, oui. Car si X avait cessé d'être une lettre pour devenir un chiffre, si X équivalait à 10, quelle quantité 10 représentait-il? Et qu'est-ce que c'était que ces 10-là? D'accord. Mais Rosine accueillit avec plaisir une preuve qui confirmait sa présomption en lui démontrant que les lanceurs de couteaux n'étaient autres que les bandits infrarouges et que l'ennemi décidément s'unifiait. Ensuite, le fait d'avoir dissipé si peu que ce fût les ténèbres qui l'entouraient constitua pour elle un encouragement extraordinaire et la joyeuse vanité des réussites l'anima d'un zèle nouveau. Elle replaça les 5 couteaux dans leur cache, se promettant de rechercher comment 3 d'entre eux étaient venus en la possession de Stephen sans qu'elle en eût vent. De ces 5 couteaux, en effet, elle n'avait vu arriver que celui de la rue Guynemer et celui du boulevard Montparnasse. L'un des 3 autres avait dû parvenir à Stephen avant le cauchemar de la maison de convalescence qu'il avait provoqué. Restaient 2 couteaux dont rien n'indiquait le mode non plus que la date d'expédition. Ce faisant, et comme elle remettait les livres sur les tablettes, quelle fut sa surprise de voir que ces livres ne traitaient pas tous d'anatomie ou de médecine, mais qu'elle avait sous les yeux l'œuvre de Lombroso. Sans être érudite, elle savait assez que c'était là des travaux d'anthropologie criminelle. Or, l'œuvre de Lombroso n'était point ici traduite en français, mais on le lisait dans le texte italien. Stephen, qui entendait plusieurs langues, avait-il voulu dépister les indiscrets? Elle poursuivit l'examen de la bibliothèque et s'aperçut que les ouvrages de criminologie s'y trouvaient en plus grand nombre que les autres. Quelques-uns seulement étaient en français. Elle remarqua, toujours en italien, la célèbre étude de Beccaria et deux in quarto allemands, Die Forde d'Art, par Karl Königsmark, Leipzig 1880, Kriminalistische Abhandlung, par Franz Doppelstrauss, Stuttgart 1905, ainsi qu'un vieux bouquin relié en peau de truie, le fameux Décoédé de l'humaniste Petrus Benedictus. 2 dictionnaires avidement feuilletés traduisirent ces titres de la sorte. La préméditation, traité de criminalité et du meurtre. Regina s'ingéniait à ouvrir le tiroir de la table. Rosine, malgré la confiance que lui inspirait sa collaboratrice, profita du fait pour lui cacher son trouble et se félicita de ce que ses livres étrangers fussent inintelligibles aux primaires de son espèce. Le tiroir ouvert ne contenait que des planches anatomiques, des tableaux descriptifs de massages, des mains décorchées en carton-plâtre, montrant au naturel les muscles, les veines ou les nerfs, les mains squelettes dont les osselets étaient montés sur des ressorts comme celles de Guillaume, un manuel de chiromancie, un petit caoutchouc en caoutchouc portant le livre 7 avec son tampon encreur, enfin de nombreux journaux soigneusement pliés. Ces journaux portaient les mêmes dates, 17-18 décembre, et donnaient le récit détaillé de la catastrophe de Montgeron qui s'était produite dans la nuit du 16 au 17. Le tiroir ne recelait donc qu'un objet équivoque, à savoir le cachet portant le chiffre 7. Les chiffres 10 et 7 dominaient le mystère. 7, c'était le vieux nombre fatidique, mais Rosie n'en savait pas davantage et n'apercevait rien qui, dans cette affaire, pût se compter par 7. Son esprit, du reste, vagabondait à l'aventure. Depuis la découverte des livres, elle était sous l'empire de la terreur. Elle ne doutait plus que Stephen fût parvenu au terme d'un lent processus qui, par degrés, l'avait amené à deux doigts du crime. Une influence occulte y travaillait. Il était sur le point d'obtempérer à la volonté persécutrice. Il allait verser ce sang que les 10 de la bande infrarouge lui commandaient de verser. Il fallait tuer. Et qui ? Lui-même, n'est-ce pas ? Il était trop bon et trop droit pour nuire à autrui. Impuissant à désobéir aux ordres mystérieux, le sang qu'il répandrait serait le sien. Rosie n'en voulait pour témoin que les larmes qu'il avait pleurées après avoir lancé les couteaux dans la porte avec une habileté si effroyable. Cependant, le malheureux devenait somnambule. Il se levait la nuit, tout endormi, marchait et agissait, mu par on ne sait quelle force étrangère. Et dans ces heures d'absence, où son âme dormait dans son corps éveillé, de quoi ce corps était-il capable? Soustrait au contraire au contrôle de la conscience, ne pouvait-il commettre des méfaits dont Stephen pourtant aurait à répondre? À tout instant, la présence de Rosine semble l'effrayer. Il s'efforce auprès d'elle de ne pas s'endormir. Est-ce seulement qu'il craint de parler en songe? Ah, mais s'il appréhende de succomber à cette monstrueuse tentation, nul doute qu'il ne se suicide. Un jour, bientôt tout à l'heure peut-être, elle le retrouvera gisant, un de ses couteaux plantés dans le cœur. « Refermez tout cela, » dit-elle à Regina, « il n'y a rien. C'est bon, merci. Refermez vite, j'ai à sortir. » Elle voit déjà Spectrophélès emportant Stephen aux enfers. Tout son être s'écrie « À boire !» Et elle se tourne dans sa détresse vers le vieux conseiller qui l'aime et la soutient. Elle descendit comme on se sauve. Deux fentes dans la porte du boulevard lui apprirent comment Stephen, en rentrant nuitamment du concert, avait trouvé le quatrième et le cinquième couteau. Oh, cette vue précipita sa fuite. Elle frappa chez M. de Crochant de manière à lui faire croire que le diable était à ses trousses. Le vieux gentilhomme, par chance, se trouvait là. Il s'habillait et vint ouvrir en pyjama un rasoir à la main. La joue droite crémeuse d'une mousse si appétissante qu'on lui souhaitait comestible. Une minute, veuillez vous asseoir, dit-il en montrant le divan à peau d'ours. J'achève de me barbifier, n'est-ce pas? Comment le lui refuser? C'était de ces petits contretemps ridicules contre lesquels rien ne prévaut fort le temps. Louis XIV lui-même eut attendu que M. de Crochant finît de se raser. Rosine, au comble de la fatigue, se laissait aller parmi les coussins. Du fond de son cabinet de toilette, le chevalier parla du bout des lèvres avec la crainte manifeste de se faire une estafilade. Oh, je m'habillais pour aller vous voir, sans parler de notre séance d'hier. Taisez-vous, lui dit Rosine, vous allez vous couper. Elle regardait Oscar, le mannequin, debout près de la porte, et toujours vêtu de son complet blanc. Elle comprenait le subterfuge du spirit. Mais en dépit de sa raison, elle était si énervée qu'elle détourna les yeux, le simulacre ressemblant plus que jamais au démon de Stephen. Alors son regard rencontra de biais un tableau posé sur un support vers sa gauche dans la partie retirée de l'atelier. C'était le portrait d'une façon de Raja magnifiquement parée. Mais c'était aussi l'incontestable portrait de Spectrophélès, avec son rictus de Méphisto, ses bagues d'améthyste et ses prunelles d'émeraude, dont il fascinait Rosine. Cette fois, la jeune femme réagit, et toute frémissante d'une anxieuse curiosité, s'approcha du tableau pour le braver en face. Ô prodige ! L'homme qui la fixait de ses yeux perçants était bien toujours Spectrophélès, mais non plus le Raja. Un gentleman occidental l'avait remplacé dans le cadre. Son costume plein d'élégance était d'une blancheur immaculée. Acceptant le défi de son antagoniste, le portrait hypnotiseur venait de rejeter son fastueux déguisement et d'apparaître sous ses dehors bien connus. Le spectre de Mongeron surgissait devant Rosine. Les émotions multipliées, la douleur lancinante de la main blessée, l'alarme continuelle, le lieu singulier, ce squelette, ce mannequin, ce fantôme, mais quelle femme n'eût point succombé ! À bout de résistance, elle battit l'air comme une baigneuse qui fonce, et s'affaissa plaintivement.